C'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, j'imagine que vous aussi, vous avez déjà fait cette expérience de vous allonger la nuit et d'observer le ciel quand l'absence de lumière et de nuages le permet. Ces centaines de milliards d'étoiles situées à des distances difficiles à concevoir me fascinent. Les images que le puissant télescope spatial James Webb nous envoie depuis début juillet renforcent cette impression que la Terre est un miracle de vie au milieu du néant. Située à 1,5 million de kilomètres de la Terre, James Webb photographie des galaxies, des étoiles et des exoplanètes. Si vous le pouvez, allez voir ces clichés sur Internet. C'est vertigineux. Nous sommes si petits dans cet univers dont nous ne connaissons pas les limites. C'est le fameux « overview effect » que connaissent les astronautes qui ont vu la Terre depuis l'espace. Cet effet de vision globale qui devrait nous faire prendre conscience que cette planète est notre unique demeure et que si nous continuons à dérégler son climat et à massacrer ses écosystèmes, nous allons tout simplement disparaître. Heureusement, il y a des raisons d'espérer avant d'en arriver là, et nous allons vous en faire découvrir quelques-unes glanées au gré de nos rencontres au festival Agir pour le vivant qui vient de se dérouler à Arles, dans le sud de la France. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Les modes de vie et les philosophies des peuples autochtones sont de plus en plus étudiés. Ils sont des sources d'inspiration pour apprendre à vivre en harmonie avec le reste du vivant. Par exemple, « buen vivir », que l'on traduit par « vie bonne » ou « bien vivre », est un principe central de la vision du monde des peuples indigènes de la région andine. Ce principe est désormais inscrit dans plusieurs constitutions latino-américaines, en particulier en Bolivie et en Équateur. Alberto Acosta est équatorien, économiste, enseignant, chercheur et l'un des premiers théoriciens du « buen vivir ». Il a présidé l'Assemblée nationale constituante équatorienne et a été ministre de l'énergie et des mines. Il a publié le « Buen Vivir pour imaginer d'autres mondes » aux éditions Utopia.
Et le « Buen Vivir » est...
Plus qu'un concept, en fait, le « Buen Vivir », le « bien vivre », c'est vraiment une façon de vivre.
Se trata de visiones.
Donc en fait, c'est vraiment une vision, un ensemble de valeurs, d'expériences et de pratiques qui existent dans les peuples autochtones. En fait, ces peuples, ils ont réussi à survivre de plus de 500 ans de conquête et de domination. C'est important de prendre en compte qu'en ce moment, il y a vraiment une émergence de ces idées importantes. Il y a cette émergence aussi parce que c'est un moment de crise importante de la modernité, de l'État-nation et de l'économie néolibérale. Elles prennent de la force parce que les peuples indigènes prennent toute leur importance dans la vie politique et dans notre pays.
Et ce bon vivre représente donc la possibilité.
Ce bon vivre, il donne la possibilité d'être en harmonie l'humain avec lui-même.
Mais le ser humano viviendo en comunidad.
L'être humain aussi dans sa communauté, puisque nous ne sommes pas des Robinson Crusoe, nous vivons dans une communauté et nous sommes communauté.
Mais
il y a une communauté en plus de la communauté humaine, c'est la communauté naturelle, la nature. Nous sommes aussi nature.
Lo importante es entender cómo se relacionan esos pueblos indígenas.
Ce qui est important de comprendre, c'est comment les peuples indigènes créent des relations, quelles relations ils entretiennent avec ces communautés. Et moi, je dirais que ces relations, elles sont surtout spirituelles.
Eso demanda mucha solidaridad, mucho respeto.
Ces relations, elles demandent de la solidarité, du respect, de l'empathie et surtout de la réciprocité aussi. C'est ça, agir pour le vivant.
Alors le buen vivir, c'est une relation harmonieuse avec la nature, c'est une vie communautaire faite d'entraide, c'est une responsabilité partagée, la production de richesses collectives, la distribution des richesses selon les besoins des membres de la communauté. Et désormais, tout cela est inscrit en haut de la constitution équatorienne. c'est quand même une révolution pour un pays et pour la façon de le diriger et de permettre aux Équatoriens d'appréhender leur rapport avec la nature.
Esas ideas son revolucionarias.
C'est un retournement copernicien, ces idées qui sont vraiment, vraiment révolutionnaires, en effet.
Hay que cambiar l'économie. Hay que cambiar las relaciones culturales.
Donc il faut changer l'économie, changer les relations entre nous, les humains, les communautés, la nature, et donner lieu à une nouvelle civilisation.
Eso sería la lectura correcta de la Constitución.
Ça devrait être la lecture de la Constitution équatorienne, mais finalement dans la pratique, c'est pas ça qu'on observe.
Oui, alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est plusieurs années après, quelle a été la conséquence de cette inclusion du buen vivir dans la Constitution? Ça s'est traduit concrètement comment?
El tema es que tratar de imponer.
L'enjeu, c'est qu'imposer depuis l'État toutes ces valeurs, cet esprit du buen vivir, c'est très complexe.
Et alors du coup, est-ce que ça a quand même influencé en Équateur une façon de gérer le pays? Vous disiez c'est difficile que ça parte d'en haut. Ou est-ce que c'est plutôt au niveau des Équatoriens, du peuple équatorien, que les choses prennent de l'ampleur?
Le buen vivir se transformó en una política.
En fait, quand le buen vivir s'est transformé en un outil du gouvernement, de l'État, il a été vidé de son contenu, il a été vampirisé.
Quedó el nombre del buen vivir.
Le nom est resté, mais cela s'est transformé en un outil politique de domination et un outil de propagande aussi. Malgré cela, les idées du buen vivir ont beaucoup de force sur le territoire, mais aussi partout dans le monde.
En nuestra constitución tenemos, por ejemplo, algo que es revolucionario.
Par exemple, dans la Constitution, on a une idée qui est vraiment révolutionnaire, c'est celle des droits de la nature.
A pesar de eso, avanza. Normalement,
l'application de ces droits de la nature avance vraiment petit à petit.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Merci beaucoup. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man. But never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes,
turn and face the strain.
Changes,
pretty soon now you're gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I said that time may change me, but I can't trace time.
Changes, l'hymne au changement, signé David Bowie dans ses pas du vent sur RFI. Inondations, sécheresses, incendies, l'actualité est anxiogène. Les conséquences du dérèglement climatique et la disparition massive de la biodiversité se font durement sentir et les scientifiques nous martèlent que ce n'est que le début. Alors vers quoi se tourner? Qu'est-ce qui peut nous inspirer? Nous en parlons aujourd'hui dans C'est pas du vent avec de nombreux interlocuteurs que nous avons rencontrés à Arles, dans le sud de la France, au festival Agir pour le vivant. Par exemple, pouvons-nous miser sur le progrès technologique pour garantir un futur enviable à l'humanité ? J'ai posé la question à Philippe Biwix. Il est ingénieur et travaille depuis de nombreuses années sur les possibilités de mener une véritable transition environnementale et énergétique.
Alors garantir, je me dis que dans l'état de la planète actuelle et des difficultés qu'on peut avoir, hein, qu'elles soient géopolitiques, sociales ou autres, je pense que personne ne peut vraiment garantir un futur serein. La question, je la reformulerai en disant est-ce que on peut compter sur les technologies comme la plupart des personnes nous le disent pour effectivement mener cette transition. Et je dirais que on a un petit peu de tout, quoi. Le pire côtoie le meilleur. Donc il va y avoir du progrès technologique comme il y en a toujours eu. Je pense par exemple à le progrès de la chimie des batteries, peut-être des énergies renouvelables qui seront encore plus efficaces ou qui réclameront peut-être moins de matières rares. Donc il va y avoir progrès technologique et on peut l'espérer celui-là, mais en même temps se dire qu'on va pouvoir tout miser finalement sur un niveau de confort, un niveau de consommation matérielle, un niveau de déplacement qui soit le même qu'aujourd'hui ou à peu de choses près, et même en accueillant évidemment les populations des pays du Sud, des pays émergents pour venir un peu tous au niveau des Européens ou des Américains, et se dire qu'on peut faire ça en 2050 en comptant sur des technologies très prospective, comme la capture du carbone et la séquestration, comme l'hydrogène, par exemple, qui serait un peu la seule chose pour sauver l'aviation, comme, d'une manière générale, une électrification majeure de l'ensemble de l'industrie et des transports. Et bien là, pour le coup, on est un peu dans le domaine du pari. On est dans le domaine du pari, d'abord parce que les technologies, elles réclament une quantité de ressources incroyable, hein, c'est-à-dire que ce soit des technologies un peu traditionnelles, historiques, ou les technologies d'aujourd'hui, hein, les éoliennes, les panneaux solaires, fabriquer des bâtiments, le numérique, bah, tout ça, ça consomme, ça extrait des ressources. Il faut savoir qu'on n'est pas en train de dématérialiser l'économie. On est au contraire dans une économie extrêmement matérielle. Et je pense que dans beaucoup de pays, en particulier du Sud, évidemment, on le sait, parce que ouais, des mines qui ouvrent, il y a des combats, je dirais, territoriaux, il y a des questions de pollution. Donc, on n'a jamais extrait autant de ressources. Et tous les grandes agences, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, l'Agence internationale de l'énergie, toutes ces agences pointent le fait qu'il va falloir une extraction gigantesque pour nourrir le passage à des énergies décarbonées, des énergies renouvelables, et l'électrification des transports, en particulier des voitures. Et donc ça va être quelque chose qui est incroyable. On parle de multiplier parfois par 2, 3, 5, 10, 50, 60 la quantité d'un certain nombre de métaux qu'il va falloir extraire. Donc ça déjà, est-ce que c'est faisable ? Je mettrai un premier point d'interrogation.
Plein de directives sont dans le sens de remplacer les voitures thermiques par les voitures électriques, les énergies fossiles par les énergies renouvelables. On voit l'apologie depuis quelques années des villes vertes ou des villes intelligentes qui, là aussi, sont bourrées de technologies. Donc tout ça nécessite en effet d'aller puiser des ressources. Alors certes, ce ne sera plus les énergies fossiles, mais ça sera quoi ?
Alors ça va être, par exemple, dans le cadre des voitures électriques, plus de cuivre, parce que voilà, on a des moteurs électriques donc qui ont un peu plus de cuivre. Il y a aussi du cuivre dans les voitures thermiques, mais beaucoup moins. Ça va être les métaux qu'il faudra mettre dans les batteries. Alors, on a longtemps parlé, on parle encore du lithium, mais il y a aussi la question du cobalt, il y a la question du nickel, la question du graphite. Alors, la grande question, c'est de combien on va en avoir besoin, et puis dans quelles conditions elles seront fabriquées, et puis comment elles seront recyclées.
Et est-ce qu'il y en a assez ?
Alors, voilà, est-ce qu'on a assez ? C'est très difficile à dire parce qu'en fait, vers quelle voiture électrique on va aller réellement à l'horizon 2050 ? Est-ce qu'on va aller vers des toutes petites voitures, peut-être dans une sorte de continuum avec des vélos électriques, hein, okay. Et donc des voitures qui feraient peut-être, je ne sais pas, 250, 300, 400 kilos, qui permettront de transporter deux passagers, un sac, et qui rempliront 95% finalement des besoins de mobilité, enfin, en tout cas dans les pays européens, c'est clair. Et donc des petites voitures comme ça, avec une autonomie peut-être de 150, 200 kilomètres, ou est-ce qu'on va aller vers des chars d'assaut, comme on commence à les voir sortir, qui font 2 tonnes et qui ont une autonomie de 800 ou 1000 kilomètres ? Eh bien, la quantité de batterie, la quantité de matière dans ces batteries, on va aller d'un rapport de 1 à 10 entre ces deux objets. Hein, parce que, en gros, si la voiture fait 400 kg ou 2 tonnes, bah, grosso modo, c'est proportionnel au poids. Et puis, idem pour l'autonomie en nombre de kilomètres. Donc, on est dans un facteur 10 sur les besoins. Donc répondre finalement à dire est-ce qu'on va en avoir assez, c'est un vrai questionnement.
Et c'est pareil pour les énergies renouvelables en fait. Si on substitue sans passer par la case économie d'énergie, sobriété, toute la consommation des énergies fossiles en énergie renouvelable, avec en plus la demande croissante qu'il y a aujourd'hui, on ne va pas y arriver.
Alors ce qui est certain, aujourd'hui, je pense qu'il y a un consensus qui s'est dessiné et c'est ça qui fait apparaître le mot sobriété dans le débat public. Alors évidemment, la situation ukrainienne et donc les prix d'énergie qui flambent, ça a donné un petit coup d'accélérateur, mais on parlait déjà de sobriété avant les événements en Ukraine. Effectivement, aujourd'hui, à peu près tout le monde reconnaît que sans sobriété, sans économie à la source, on ne va pas y arriver. Il faut, elle est nécessaire, elle est indispensable. Plus on fera la sobriété et plus on va faciliter effectivement la transition parce que, en gros, si vous consommez moins, vous avez besoin d'installer moins d'éoliennes, par exemple. On a confondu longtemps sobriété et efficacité. Donc, en fait, l'efficacité, c'est de dire on va isoler mieux les bâtiments, on va avoir des moteurs dans l'industrie ou dans les voitures plus efficaces. Le numérique, finalement, les data centers, dans 10 ans, ils seront bien moins énergivores que les data centers d'aujourd'hui qui sont déjà, d'ailleurs, bien moins énergivores que ceux d'il y a 10 ans. On les refroidit différemment. Maintenant, on trempe même les serveurs dans des bains d'huile. Enfin, il y a plein de. On installe les trucs en Finlande pour les climatiser à l'eau froide. Donc, il y a plein de techniques comme ça. Donc, il y a du progrès technologique, voilà. Et c'était cette efficacité sur laquelle on comptait. En fait, ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que cette efficacité, elle est mangée par l'effet rebond. C'est-à-dire que tous nos dispositifs, tous nos produits, tous nos services qui sont effectivement de moins en moins consommateurs unitairement de ressources ou d'énergie, parce que tout le monde y a un intérêt, pour une entreprise qui fournit un produit ou un service, consommer moins d'énergie, c'est être plus compétitif, c'est être plus concurrentiel. Donc ça marche, mais malheureusement, quand vous consommez moins d'énergie et de ressources, vous pouvez vendre votre produit ou votre service moins cher, donc il est plus accessible. Eh bien, en fait, ça va créer de la demande. Et donc, on peut prendre l'exemple emblématique du transport aérien. Le transport aérien, vous avez aujourd'hui des avions qui, en termes de kérosène, consomment beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Il n'y a aucun souci. Et puis, ils sont mieux remplis par kilomètres passagers transportés. On va émettre beaucoup moins de CO2 par rapport à il y a 20 ans.
Mais il y a beaucoup plus d'avions.
Il y a beaucoup plus d'avions et il y a beaucoup plus de passagers. Donc globalement, la facture, elle continue à monter. C'est ce qui se passe aussi dans le numérique, évidemment. La 5G, par exemple, la cinquième génération de téléphonie, c'est beaucoup plus efficace pour chaque unité d'information, pour chaque octet. Pas de problème, c'est bien plus efficace que la 3G et la 4G. Sauf que, évidemment, ça va permettre le métavers, l'Internet des objets, les jeux massifs en ligne et la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Et que ça va effectivement provoquer des quantités, des besoins de données phénoménaux, d'échanges de données phénoménaux.
Au niveau mondial, on le voit aussi sur l'énergie, parce que finalement, les énergies renouvelables se sont ajoutées, en termes de consommation d'énergie, aux énergies fossiles. Elles ne se sont pas substituées.
Alors, au niveau global, oui, il faut faire toujours très attention quand on regarde les statistiques générales sur les capacités installées et sur l'énergie produite. Puisque vous savez que quand on installe une capacité de centrale à gaz, peut-être elle va tourner, si elle tourne en permanence, alors que les éoliennes vont avoir ce qu'on appelle un facteur de charge qui est peut-être de l'ordre de 25%, 30%, 35%. Mais si on regarde effectivement en production, l'installation d'énergie renouvelable, malgré la croissance très impressionnante des deux dernières décennies, en particulier des dernières années, on n'arrive pas à rattraper la croissance de la demande. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la consommation d'énergie, on rajoute du charbon, on rajoute du gaz, en plus des énergies renouvelables. Donc effectivement, on n'arrive pas à suivre le rythme. Alors ça, c'est pas qu'il n'y a pas eu substitution. Dans un certain nombre de pays, il y a de la substitution. On peut penser à des pays comme le Danemark, comme l'Espagne. Par contre, il y a des pays où effectivement la croissance est telle. Je pense à la Chine, par exemple, où c'est là qu'il y a l'essentiel aujourd'hui, la majorité en tout cas des installations solaires ou éoliennes, au niveau mondial ou même les États-Unis. Et là, par contre, effectivement, on a une croissance qui est telle que, en fait, on ajoute de l'éolien, mais on ajoute aussi du nucléaire et on ajoute aussi et surtout du charbon et du gaz. Donc, effectivement, la transition, pour l'instant, elle ne se fait pas.
Alors, comment on fait pour contrer cet effet rebond ?
Il faut se dire justement que les solutions, si vraiment solutions il y a, elles ne sont pas techniques ou technologiques, elles doivent être socio-techniques, elles doivent prendre en compte les usages, prendre en compte les comportements. Je vais prendre un exemple, on parle tous de rénover les passoires thermiques, par exemple dans un pays comme la France, il y a on a un enjeu de rénovation thermique qui est juste hallucinant. Hein. On n'est pas du tout aujourd'hui sur la trajectoire sur laquelle la France s'est engagée en termes de notre stratégie bas carbone. Pour être sur la trajectoire dans le secteur du bâtiment, il faudrait qu'on multiplie par 20 à 25 le rythme auquel on rénove réellement et à un niveau correct les logements en termes de, pour les transformer hein, de passoires thermiques en logements mieux isolés, plus faciles à chauffer. Donc on est vraiment très très loin. Donc il y a un enjeu énorme là-dessus. Eh bien, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, si vous arrivez juste et puis vous rénovez la maison, l'appartement, eh bien, en fait, vous ne gagnez pas ce que les thermiciens ont calculé ou ce que les ingénieurs ont calculé. La première chose, quand vous étiez dans une passoire thermique et elle est isolée, bah, vous allez avoir moins froid d'abord, hein, parce qu'avant, vous dépensiez de l'énergie, vous aviez froid. Bah, on va avoir un peu moins froid, donc la température de consigne va monter un petit peu. Et donc, on va être dans un effet rebond partiel qui va manger une partie des gains espérés. Alors, dans la mobilité, bah, ça peut être la même chose. Hein, finalement, c'est qu'est-ce que sont les besoins de mobilité ? Et peut-être que demain, une des solutions, c'est pas juste de dire on a tous des plus petites voitures électriques. Oui, ça fait partie de la solution, mais c'est aussi de se dire est-ce qu'on a un aménagement du territoire qui permet d'avoir une vie bonne pour l'essentiel du temps sans se déplacer en habitant toujours plus loin de son travail, en devant faire 40 km pour aller passer une radio ou un examen, en faisant 20 km pour emmener la petite dernière à l'école de musique, que sais-je. Donc c'est aussi des questions de revitalisation, peut-être de démétropolisation, de se dire qu'aujourd'hui, on a des grandes villes qui finalement attirent les gens. Elles attirent les gens parce que c'est là qu'il y a l'emploi, parce que c'est là qu'il y a peut-être les aspects culturels, etc. Et qu'en fait, on continue finalement à vider un peu les petites villes, des villes moyennes, où il y a des logements vacants, il y a du patrimoine bâti existant qu'on sous-utilise. Et à côté de ça, pendant ce temps-là, on a des zones tendues où le prix des terrains, le prix du foncier s'envole. Voilà, donc là, il faut travailler ça parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Les grandes villes, les grandes métropoles sont très probablement d'abord extrêmement exposées, pas très résilientes aux questions climatiques, aux chocs qu'on pourrait avoir à vivre. On peut penser à des questions même de résilience alimentaire, hein, la manière dont leur métabolisme, la manière dont elles sont nourries. Voilà, finalement, se dire qu'on vient se réarticuler avec d'autres enjeux du territoire. Un autre enjeu, c'est la transformation de notre système agricole, qui réclamera aussi un peu plus de monde. Il ne s'agit pas d'envoyer 40% des gens retourner faire paysan, on n'ira sans doute pas là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, se retrouver avec à peine quelques centaines de milliers de paysans, dont la moitié a plus de 50 ans, et en se disant que voilà, ces gens vont partir à la retraite et que voilà, la seule solution, ça va être d'avoir des gens qui vont exploiter grâce au numérique, au GPS et à des tracteurs toujours plus gros, des quantités toujours plus grandes de terres, avec finalement... voilà, des difficultés qu'on connaît en termes d'articulation avec le vivant, bah de se dire qu'un système agricole demain, eh bien, il y a un peu plus de travail, il y a un peu plus de monde. Et voilà, et donc ça peut permettre aussi de relancer un petit peu la vie dans les villages, etc. Il y a aussi la question de l'exigence. Finalement, nous sommes des consommateurs, enfin, dans les pays européens en particulier, finalement gâtés, quoi. Enfin, et quel que soit le niveau de... Enfin, quelles que soient les conditions météorologiques, par exemple, hein, ben voilà, j'allume l'interrupteur et je sais que ça s'allume, quoi. Et c'est jamais en panne et c'est incroyable. Le niveau de fiabilité du réseau est énorme et bravo à tous nos ingénieurs dans tous les domaines. Ben ça, peut-être, ça changera demain. C'est-à-dire que peut-être faut accepter dans le futur que, eh bien, quand il y a un peu moins de vent en Europe et qu'il fait froid, eh bien, à un moment, on va peut-être envoyer des électrons de manière prioritaire dans les hôpitaux, les systèmes de transport, et puis qu'à la maison, bah, on chauffera un peu moins, et puis que pendant 3 jours, il fera 15 ou 16 degrés, eh bien, c'est pas très grave, on mettra un pull, et peut-être d'ailleurs qu'on le fera de manière plus systématique. Et en acceptant ça, en fait, on libère des quantités phénoménales, des marges de manœuvre incroyables, parce que c'est autant de mâts d'éoliennes en moins installés, c'est autant de dispositifs de stockage, de stations de pompage, turbinage, d'électrolyseurs, de batteries, que sais-je, en moins à installer, parce qu'on accepterait finalement de se rapprocher d'une certaine intermittence de la vie, de la nature, et qu'on s'adapterait à ça, et finalement de se dire, bah, demain il y aura du vent, donc c'est demain que je lancerai la machine à laver. Voilà. Alors c'est un peu bizarre pour nous aujourd'hui d'entendre ça, mais à mon avis, ça viendra.
Merci beaucoup.
Merci.
R.F.I.
Le gris du métal, le jaune de l'or, le suintant du pétrole, le dru de l'asphalte et du béton. Ces choses-là qu'ils appellent richesse et qu'ils accumulent. La peur de ne pas en avoir assez. Au point de spolier tout ce qu'ils croisent sur cette planète. Au point de creuser comme des forcenés le ventre de la terre, de suffoquer la terre, de sucer son sang, de ne pas lui laisser le temps de respirer. de se régénérer et d'offrir à tous les fruits de ses entrailles. C'est étrange.
Pour nous écrire, c'est pas du vent@rfi.fr.
En France, le transport est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Il n'est donc pas étonnant que l'ADEME, l'Agence française de la maîtrise de l'énergie, tente d'innover dans ce secteur. C'est le travail de Gabriel Plassat, cofondateur de la Fabrique des mobilités, en charge de la prospective et du projet Extrême Défi à l'ADEME. Écoutez, il cherche des partenaires dans la francophonie.
C'est une des premières sources en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça va toucher le quotidien de tout le monde et également le transport de marchandises. Et donc c'est un sujet global, à la fois technique, économique, social, de changement de comportement, à tous les niveaux, qu'on soit en ville ou bien dans des territoires plus ruraux.
Alors, vous avez mis en place tout un défi, ça s'appelle l'extrême défi d'ailleurs, pour essayer de repenser la mobilité. Expliquez-nous ça.
Oui, l'extrême défi, l'objectif, c'est de s'intéresser à des véhicules qu'on appelle intermédiaires, donc entre le vélo électrique et la voiture. Et donc d'imaginer une collection d'objets roulants qui vont tirer profit du succès du vélo électrique, donc des composants moteurs, transmission, batterie, qui viennent du vélo électrique et qui sont maintenant produits à bas coût, pour couvrir des véhicules un petit peu plus gros, pour transporter une à deux personnes avec une charge de 100 kg ou trois personnes. Et ces véhicules, on les destine en priorité aux territoires ruraux dans un premier temps. Et donc l'objectif, ça va être de les concevoir, de les prototyper, de les expérimenter dans ces territoires ruraux, et ensuite d'imaginer des modes de production de ces véhicules intermédiaires pour en produire plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers par an en France, en Europe et partout dans le monde, parce que les besoins sont mondiaux probablement pour ce type de véhicules.
Alors pourquoi vous vous intéressez d'abord aux enjeux du déplacement dans le monde rural ?
Alors on a visé le rural en considérant que dans les pays développés, en urbain, le transport public, la marche et le vélo conviennent. Alors bien sûr, il faut qu'ils se développent, mais ça va être les trois piliers de la mobilité dans les territoires urbanisés. En périurbain, là, ça va dépendre des pays et du contexte. Donc on va commencer à utiliser ce type de véhicule intermédiaire. Par contre, dans le rural, à court terme, il n'y a pas d'alternative. On est aujourd'hui très dépendant de l'automobile thermique dans la plupart des pays. Et donc là, on a visé ces territoires-là pour faire un saut où on passerait de ces véhicules thermiques d'occasion à des véhicules 10 fois plus efficaces, plus légers et qui fonctionneront principalement avec de l'électricité et des batteries.
Alors là, vous êtes à l'année zéro. Vous avez 40 équipes qui travaillent sur des prototypes. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ?
Alors tout à fait. Là, c'est la première année. Donc on a posé le cahier des charges que j'ai évoqué, hein, une à deux personnes et une charge de 100 kilos. Des véhicules qui sont donc beaucoup plus efficaces que l'automobile, reconditionnables. Donc on peut les démonter, les remonter, les réparer. Donc on fixe ce cahier des charges, on a invité des équipes à imaginer des véhicules, à concevoir. Donc là, c'est cette année, ils sont en train de le faire. Fin octobre, on aura donc une bibliothèque de concepts qui seront publics, qu'on pourra voir sur un site. Et ensuite, l'année prochaine, on va prototyper ces véhicules et les expérimenter dans des territoires. Et donc on a commencé à rassembler, on a plus de 200 communes rurales intéressées pour faire connaître ces véhicules et aller chercher des citoyens, des ménages qui auront envie de tester ces véhicules au quotidien. Et ensuite, l'année 3, on va s'intéresser au passage à l'échelle, donc à la production industrielle de ces véhicules, avec des concepts de micro-usines. Peut-être un garage automobile qui veut se diversifier pourra monter, réparer, reconditionner ces véhicules, ou bien une nouvelle structure, une association pourra se lancer également dans le montage, la réparation et le reconditionnement de ces véhicules intermédiaires.
Et là où ça peut intéresser nos auditeurs de par le monde, c'est que l'idée, c'est que ce soit open source, c'est-à-dire que tout le monde puisse se saisir de cette technologie.
Tout à fait. Il y aura un maximum de livrables. Déjà, les concepts seront publics, les concepts des véhicules. Ensuite, on s'intéresse à standardiser un maximum de composants, par exemple la forme des batteries, les connectiques, les chargeurs, tout un tas de connaissances qu'on met aussi en open source sur un wiki pour diffuser ces connaissances-là. Et ensuite, l'extrême défi, on a envie que d'autres pays répliquent ce qu'on est en train de mettre en place en France, en Europe, mais aussi en Afrique, en Amérique du Nord, partout où les besoins sont identiques dans le rural, pour mutualiser des efforts, développer des composants standards et créer une industrie finalement de ces véhicules intermédiaires qui permettra de faire baisser les coûts pour du coup se diffuser plus largement avec des véhicules qui deviennent économiques.
Mais qui dit nouvelle industrie dit extraction de matériaux, extraction de matières premières, gestion de batteries qui sont polluantes, etc. Donc c'est remettre aussi dans le circuit de la matière.
Alors oui, sur le principe, oui. Donc c'est pour ça que ces véhicules sont 10 fois plus légers et reconditionnables à l'infini. Donc on va essayer, d'ailleurs on demande aux candidats de calculer cette énergie pour produire le véhicule, ça fait partie de leur travail pour le réduire au maximum. Mais des véhicules qui sont par design, dès le départ, conçus pour être démontables, remontables, réparables, reconditionnables, comme on commence à le voir avec les téléphones, des téléphones qui ont plusieurs vies. Et là, on souhaite que ces véhicules aient plusieurs vies. Et ensuite que les batteries également soient elles-mêmes reconditionnables, démontables, remontables. Il y a des acteurs industriels en France qui font ça, comme Gouache par exemple, qui travaille sur des batteries démontables, remontables et qui va aider les partenaires de l'extrême défi à concevoir de telles batteries.
Et en termes de coûts, sont des véhicules qui vont coûter cher ?
Alors pour que ça marche, il faut que ces véhicules soient compétitifs, non pas à la voiture neuve, mais à la voiture d'occasion, qui est la cible finalement à viser. Et donc, pour que ça réussisse, il faut des véhicules qui soient à moins de 10 000 euros, quelques milliers d'euros. Et donc là, il y a tout aussi des modèles économiques sur lesquels il faut qu'on travaille pour faire baisser les prix, pour avoir peut-être des incitatifs aussi publics pour que le coût global soit le plus réduit possible. Éventuellement, partager ces véhicules à l'échelle d'une commune ou d'un quartier ou d'un ensemble d'habitations. Imaginer voilà, des incitatifs au niveau de la collectivité ou de l'État, sachant que l'usage de ces véhicules est très économique, hein, puisqu'ils sont très légers, ils consomment très peu d'énergie. Donc la charge de la batterie est beaucoup plus faible que, voilà, qu'un plein de voitures thermiques.
Mais au-delà de la technologie, ça sous-entend aussi changer les mentalités pour que les gens aient envie d'avoir, oui, par exemple, un véhicule dont on verra le design. J'imagine que vous allez faire quelque chose d'attractif, mais qui soit aussi une alternative donc à leur propre choix de transport.
Oui, c'est là tout le défi, finalement, au-delà de la technologie de ces véhicules, c'est de convaincre des citoyens de laisser leur voiture thermique pour changer, pour basculer vers ce type de véhicule. Il y a un aspect irrationnel, effectivement. Est-ce qu'il donne envie ? Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que ça correspond à des aspirations sociales et citoyennes ? Et donc, c'est ça qu'on va explorer dans plusieurs territoires, dans plusieurs contextes. Et le but aussi, c'est de recueillir les retours des utilisateurs pour que les gens qui conçoivent les véhicules en tiennent compte et améliorent les objets, corrigent les directions peut-être qu'ils ont choisies pour cheminer ensemble vers des véhicules qui soient utiles et que les gens aient envie d'utiliser au quotidien.
Alors, où est-ce qu'on peut suivre cet extrême défi ?
Alors, le site, c'est xd.ademe.fr.
Et vous ne vous arrêtez pas là, puisque voilà, vous travaillez beaucoup sur la mobilité. Donc, vous avez aussi créé une association pour réfléchir sur ces enjeux, parce que c'est capital aujourd'hui.
L'association s'appelle La Fabrique des Mobilités, qui est donc maintenant une association indépendante de l'ADEME, qui travaille sur l'open source, les communs, dans le domaine de la mobilité, c'est-à-dire ce que les acteurs ont intérêt à mutualiser, à faire ensemble, des ressources qui sont utiles et non compétitives, en complément des développements classiques d'une industrie. L'objectif, du coup, c'est de permettre de synchroniser des acteurs, d'aller plus vite sur certains projets. Et donc, cette association, elle existe maintenant depuis plusieurs années.
Et donc, si on est au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, on peut aussi communiquer avec cette association ?
Alors, non seulement on peut communiquer, mais on invite aussi les acteurs à l'international pour répliquer des fabriques des mobilités. Alors on cherche des partenaires en Afrique francophone et on a aussi une fabrique des mobilités au Québec, à Montréal, qui est opérationnelle depuis plusieurs années aussi, avec lesquelles on échange.
Où est-ce qu'on peut vous contacter si on a envie de se lancer dans une fabrique de mobilité ?
Eh bien, le site, c'est lafabriquedesmobilités.fr.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
New York love for Hamul Ken. Way little, little, little Medina. Jele de Fleja Medina. Lide lang def nyo mama. Fateko Medina ma.
Vivendo longe, de onde cresci. E a saudade bate aberta, ferida aberta. A fé me deu coragem pra lutar. E só Deus sabe quando voltarei. E quem sai de casa quer voltar. Eu sinto falta do lugar onde nasci, do meu primeiro banho de mar, das árvores de cores do céu. E só Deus sabe quando voltarei.
Sénégal et le Brésil. Las et Flavia Coelho dans C'est pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Et si l'une des solutions pour réaliser concrètement et à grande échelle la transition écologique était de miser sur la concertation citoyenne avec des scientifiques pour construire des territoires désirables ? C'est la conviction et le combat que mène Pierre Leroy dans les Alpes du sud de la France. Maire du village depuis Saint-André pendant 12 ans, puis président du pays du Grand Briançonnais, Pierre Leroy impulse une transition écologique dans 37 communes. Énergie renouvelable, autonomie alimentaire, mobilité durable, préservation de la biodiversité ou encore gestion des déchets, tous les sujets sont abordés avec les 36 000 habitants qui partagent ce territoire de montagne. Pierre a une détermination qui inspire le respect et fédère les enthousiasmes.
Très clairement, moi, je pense que les territoires sont vraiment des opportunités parce que ce sont des bassins de vie. Et là, en l'occurrence, on est au plus près des populations, de leur mode de vie. Et la question qu'on a à se poser, c'est comment, demain, on peut rendre nos territoires désirables en tenant compte du bien-être des concitoyens. J'ai toujours considéré, moi, que le rôle d'élu consistait à être soignant de territoire et de tenter de prendre soin d'un territoire et d'une population. Donc là, on revient sur de la santé publique, où là, on se rapproche des gens, on se rapproche des territoires, on se rapproche de la biodiversité, on se rapproche des humains et des non-humains pour tenter de trouver des équilibres qui soient satisfaisants. Et je suis persuadé de plus en plus que plus on adoptera ce type de réflexion et d'attitude, plus on résoudra la problématique de la crise climatique. Parce qu'en fait, beaucoup de nos concitoyens sont prêts à changer de vie. La difficulté, c'est que les collectivités, le territoire ne leur permet pas toujours de changer de vie. Je vais donner des exemples. Hein. Sur les besoins primaires, hein, c'est un petit peu la pyramide de Maslow. Boire, manger, se loger, se déplacer, ce sont les besoins primaires des populations. Quand on est un citoyen en zone rurale et qu'on veut se passer de sa voiture pour ne pas produire trop de CO2, sauf que s'il n'y a pas de transport en commun, ben on est en difficulté. Quand on loge dans un logement dont on est locataire, qui est une passoire thermique, donc on n'a aucune possibilité d'agir parce qu'on est locataire. Donc on est piégé. On sait très bien que là, on participe à la crise climatique. Et là, quand on veut, par exemple, manger bio et local, mais qu'il n'y a pas d'agriculteur, de maraîcher là autour de soi, et que toute notre alimentation vient en camion de 100, 200, 300 kilomètres. Donc là, on est totalement piégé dans cette situation. Et on sait très bien, parce que les scientifiques ont bossé sur cet aspect, la peur est nécessaire vis-à-vis de la crise climatique. Et là, ces derniers mois, on a bien eu tous les éléments qui ont créé de la peur sur les incendies, la sécheresse, la canicule. La peur est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, dans le sens où si on veut véritablement opérer un changement dans le quotidien des gens, si on veut que les gens opèrent un changement, eh bien, il leur faut une notion de pouvoir d'agir. Donc, il faut à la fois les consulter, à la fois faire avec eux, mettre en œuvre des projets territoriaux qui répondent véritablement à leurs besoins. Dans ces conditions-là, les citoyens changeront de pratique.
Alors après, vous l'avez fait et vous le faites depuis des années à l'échelle du pays du Grand Briançonnais. Mais il faudrait des élus comme vous, j'ai envie de dire, dans tous les territoires. Il y a une question d'échelle. Comment est-ce qu'on peut être à l'échelle face à l'urgence climatique et à la disparition de la biodiversité qui sont de plus en plus dramatiques ?
Alors ce qu'on observe, c'est que sur les territoires, il y a un certain nombre de territoires hein, qui bougent et qui ont mis en place cette transition écologique depuis 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans. Hein. Je pense à Losangoël, je pense à Ungersheim, je pense qu'il y a un certain nombre de territoires en France qui ont déjà mis en pratique un tas d'expérimentations. Aujourd'hui, en effet, la question, c'est la massification et la généralisation de ces pratiques sur l'ensemble du territoire français.
Et même en dehors de la France.
Bien sûr, tout à fait. Les élus doivent être des soignants. Les soignants, eh bien, ils font preuve d'empowerment, c'est-à-dire qu'ils redonnent le pouvoir aux patients. Aujourd'hui, on est dans un passage délicat où, en effet, on peut considérer que la pathologie est là et le diagnostic, on le connaît. On sait précisément ce pourquoi notre territoire et plus globalement la planète est en danger. Donc, il faut redonner le pouvoir aux citoyens pour pouvoir justement obtenir une adhésion et une volonté de faire tous ensemble. Ça nécessite ce que j'appelle de l'animation territoriale, c'est-à-dire des vrais gens sur des territoires en soutien des élus bénévoles qui vont construire, aider, aller au contact des entreprises, des associations, des citoyens pour construire du projet. Donc à la fois comprendre exactement quels sont les besoins très précis concernant les besoins primaires de cette population dans ce bassin de vie et avec les citoyens, construire un projet qui va permettre derrière d'aller chercher des fonds structurels qui vont permettre de faire du projet et répondre à ses besoins. Par exemple, il y a une chose qui me choque, une agence de l'État comme l'ADEME, qui dans ses rapports dit « le véhicule électrique individuel est une catastrophe », quelques mois plus tard, on décide de développer le véhicule individuel électrique à une échelle très courte, parce qu'en 2030, les véhicules thermiques devront disparaître. Donc là, déjà, il y a une incohérence totale, mais surtout, en développant le véhicule individuel électrique, on ne répond pas aux besoins primaires des populations qui doivent se déplacer. C'est-à-dire que ce qu'il nous faut, c'est développer du transport en commun, développer des pistes cyclables, développer des chemins piétonniers, réaménager la ville de telle sorte que les gens aient le moins de déplacements à faire. Ce n'est pas de déployer des bornes électriques pour les Tesla du territoire.
Alors vous, à l'échelle de votre territoire, vous avez fait ce travail de sensibilisation des citoyens sur différents thèmes, que ce soit l'accès à l'énergie, la gestion de l'alimentation, l'accès à l'eau, la notion de la mobilité, etc. Enfin, vous avez pris les grands secteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en choisir un, parce qu'on n'a pas le temps de tous les évoquer, qui démontre que ça fonctionne ?
Je vous donne un exemple de ce qu'on est en train là de démarrer, Là, c'est tout neuf. Ça va durer 18 mois, accompagné de scientifiques du CNRS. Nous allons, à l'échelle donc, de 36 communes du territoire, discuter tous ensemble, débattre de la politique énergétique du territoire. Nous avons un plan climat qui montre qu'on produit aujourd'hui 100% de l'électricité qu'on consomme. Mais à l'année, 90% du temps, on est en déficit et 10% du temps, on a plus d'électricité que ce qu'on consomme. Et donc, avec le déploiement du véhicule individuel électrique, on sait qu'on va avoir besoin d'encore plus d'électricité. Comment fait-on ? Sachant que si on déploie des énergies renouvelables, ces énergies renouvelables, indéniablement, ont un impact sur la biodiversité, sur les métaux rares, sur etc., etc. Et donc là, c'est quels arbitrages ? Les associations environnementales, les associations de kayakistes, les associations de pêcheurs, légitimement attaquent au tribunal des projets d'hydroélectricité. On peut aussi s'interroger sur le photovoltaïque au sol, avec ses impacts à tout point de vue. Sauf qu'il va bien falloir trouver des compromis. Et ça, qui décide de ça ? Eh bien, nous, le choix que nous faisons, c'est qu'à travers un débat démocratique arbitré par des scientifiques et mené par des scientifiques, donc ce sera le tiers, c'est-à-dire que nous, on va se retirer. Et donc, les scientifiques vont être là pour organiser ce débat et tenter de mettre les gens tous ensemble. Il va falloir faire ensemble. Il va falloir construire un avenir possible et désirable ensemble. Donc l'enjeu de la concertation est déterminant. Il n'est pas question d'organiser de la fausse concertation pour de l'acceptation sociale. Il est question ensemble de construire un avenir. Ça veut dire que le contrat est très important au départ. Il ne faut pas tromper les citoyens. Si on leur dit, comme ça a pu être dit, je reprendrai sans filtre vos propositions et que finalement, on les met de côté et on les jette.
Ça, c'est ce que le président Emmanuel Macron avait dit avant la Convention citoyenne sur le climat à ceux qui y participaient. On a vu que finalement, il y a eu un énorme filtre. Il n'y avait pas, c'était pas sans filtre du tout.
Exactement. Et donc ça, c'est un message extrêmement négatif concernant la concertation et le faire ensemble. Donc ça veut dire que cette confiance, ça prend du temps pour la gagner, mais ça se perd très vite. Donc la difficulté que nous avons concernant la transition écologique, c'est qu'on travaille sur du temps long et le temps nous est compté. Mais on n'a pas le choix, il faut faire avec ce paradoxe. Donc toutes les opérations de concertation, encore une fois, qui ne sont pas des opérations de validation ou d'acceptation sociale, je parle de la vraie concertation, nécessitent des gens formés, nécessitent des gens compétents, et que cette concertation soit menée de façon professionnelle, respectueuse, et surtout qu'on respecte le contrat, les engagements qui ont été pris au départ. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. Ça prend du temps pour tout le monde, pour les citoyens aussi. Hein. Il faut qu'ensemble, nous trouvions un chemin. C'est ce qui va garantir tout simplement la survie de l'humanité à terme. Donc c'est se faire ensemble, cette coopération qui est incontournable, obligatoire. C'est le prendre soin des territoires et des populations. C'est notre avenir qui est en jeu.
Merci.
Merci bien.
Pierre Leroy raconte son parcours et ses combats dans un livre qui se lit comme un roman, Passage délicat, Penser avec un E et Penser avec un A, le territoire. C'est publié chez Actes Sud. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. La semaine prochaine, nous serons à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, au festival Climax. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à jeudi prochain, même planète, même heure.